Radio G 101.5 FM.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Trompez vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes d'abord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G, il est 19h et comme tous les lundis, c'est l'heure de la case de Seb, votre émission de référence musicale, non qu'est-ce que je raconte, de référence sur le 9e art.
Ça commence. les gens m'ont pas entendu, rassure-toi.
Nous allons vous chroniquer et vous parler de manga, de comics et d'albums franco-belges. On va transmettre par le truchement des ondes radiophoniques les plus belles images directement dans vos cerveaux.
Et le meilleur son.
Et le meilleur son.
Les gens jugeront.
Alors, on va pas forcément faire de petites news.
Oh peut... Alors, mais ça, c'est une nouveauté.
T'en avais ?
Non, pas du tout.
Ah bon, bah voilà.
Non, je suis allé sur Acte BD, notre partenaire news. Et du coup, ça ne parlait que d'Angoulême. Que d'Angoulême, donc on n'est pas vraiment sur des nouvelles très fraîches. Mais après, on peut refaire un.
Mais t'as été à Angoulême, tu peux en parler.
Topo, en fait, d'Angoulême. Hein.
Pardon ?
On peut faire un petit topo d'Angoulême avec les débrayages assez nombreux.
C'est la première année où, pour le coup, des actions ont été mises en place. Alors après, il y en a eu dans les années précédentes, hein, évidemment, mais...
Là, c'est d'envergure.
Ouais, là, c'est un peu plus d'envergure. On sent qu'il y a une règle générale. Et puis bon, alors après, hasard du calendrier, en fait, le scandale des AGSA est tombé quelques jours avant... Ouais. Avant Angoulême, donc c'est vrai que ça a un petit peu accentué la colère. Alors pour ceux qui ne savent pas, comme Anthony par exemple, le scandale des AGSA, c'est que nous avons un organisme qui s'appelle les AGSA qui est censé récupérer de l'argent, enfin cotiser pour nos retraites depuis 40 ans via une contribution diffuseur. C'est-à-dire que chaque éditeur, chaque client doit reverser 1,1% doit contribuer à hauteur de 1,1% de la facture. Qu'on émet nous pour contribuer à nos retraites. Sauf que l'AGSA, on s'est rendu compte via le rapport Racine qui est sorti il y a déjà quelques temps qu'ils n'avaient pas demandé aucune contribution depuis 40 ans. Donc au niveau des retraites, toujours avoir tendance à penser que bon, déjà elle va être tarde, vive la mienne, c'est une certitude. Et puis voilà, je sais pas, il va falloir que je trouve d'autres choses, un bas de laine, des trucs à venir. Ouais. Donc ça a été mis en lumière par le rapport Racine. Moi, il y a d'autres trucs qui seront certainement mis en lumière par la suite. Qui viendront mettre en évidence que le statut est catastrophique. Il est plus que compliqué. C'est une tannée. Donc la prise de conscience générale fait que toute société individualiste professionnelle qu'on puisse être, nous les auteurs de BD, il y a eu un beau rassemblement autour d'Angoulême sur le jeudi. Pas tant que ça, parce qu'il y avait quand même Monsieur le Président et que c'était un peu cerné
un
de partout
contrôlé.
en termes de CRS. Je ne pensais pas que les flics aimaient autant la bande dessinée. Et du coup, le vendredi, le samedi et le dimanche, voilà, il y a eu du débrayage, il y a eu des actions menées, il y a eu de l'engagement au niveau des discours aussi pour les fauves qui sont remis. Donc voilà, une espèce de cohésion générale. Qui fait que ça doit continuer en fait, faut pas que ça se tienne à Angoulême, sachant que voilà la promesse ou la menace, j'aime pas dire menace, mais voilà ça a été dit notamment par Fabien Velman au moment où il a reçu son prix René Goscinny pour le dernier Atlas. S'il n'y a pas de changement en 2021, il n'y aura pas d'auteur à Angoulême, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà.
C'est vrai que ce serait quand même dommage.
Un peu emmerdant pour tout le monde.
2020, année de la bande dessinée. Alors, bande décimée.
Ouais, bande décimée, on a fait un petit jeu de mots.
Et puis, 2021, année sans BD, du coup.
Ouais, année sans BD, si les choses n'évoluent pas d'ici là.
Il y a plein de choses qui convergent pour donner des signes, peut-être, d'alerte et de changement.
Espérons. Moi, j'ai eu la mauvaise idée d'aller voir les commentaires sur un article qui relayait ce genre de choses. Et puis, bon, immanquablement, tu tombes sur des haters. Hein, donc, bon, après, le combat n'est pas gagné. gagner et puis les gens ne comprennent pas, bah tant pis. Enfin, nous, voilà, on essaie de se battre pour nos droits, puis on essaie aussi de se battre pour que la bande dessinée perdure, quoi, tout simplement.
C'est clair. Puis le but n'est pas de relayer débat, mais on voit bien qu'il y a un conflit, notamment vis-à-vis des déclarations de certains dirigeants de maisons d'édition.
Oui, oui, oui.
Que, bah, c'est un petit peu compliqué.
Le SNA, oui, oui, bien sûr. Mais après, voilà, je pense que. On est obligé de travailler ensemble, c'est donc un à un moment donné, il va falloir qu'on trouve un terrain d'entente. Après, ils ont des arguments qui, bah, selon nous, sont pas recevables, et puis bon, ils les avancent malgré tout, mais non, on va réussir à trouver un petit terrain d'entente. Enfin, on a un an pour ça.
Ouais.
Sinon, il n'y a pas d'Angoulême 2021.
Ok.
Voilà.
Ça promet.
Ça va être chouette.
Ouais, non, mais on croise les doigts parce que c'est de beaux métiers qui sont parfois extrêmement compliqués. Et
bah, puis c'est une industrie culturelle qui est importante, hein, qui permet à la France de rayonner à l'international. C'est vrai que bon, je pense que pas mal de gens s'en foutent tout simplement parce que la bande dessinée, c'est pas quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose qui fait partie des vies des uns et des autres, mais si ça venait à disparaître, les gens se disent voilà, on n'est pas sur un,
oui,
sur un besoin comme boire, manger. Donc, mais bon, ça reste, en tout cas pour moi, ça revêt une importance capitale, pour d'autres aussi évidemment. Donc bah, à nous de montrer qu'on a envie de continuer, qu'on a envie de vivre de cette passion et puis de la faire partager à d'autres et puis d'emmener les trucs beaucoup plus loin parce que c'est pas que ça. Enfin, ça implique plein de choses, quoi.
C'est clair.
Voilà, monsieur.
Je finirai sur la petite photo présidentielle avec le joli t-shirt.
C'est compliqué, ça. Moi, je sais pas. Enfin, si, c'est marrant parce que j'avais une discussion avec Pierre, notre ami commun, juste avant, là, dans la voiture, qui me parlait justement de cette photo qui a fait polémique. Je suis pas complètement convaincu du bien fondé de la chose. Je sais pas. Je trouve que le message, il est brouillé. J'ai plus l'impression qu'on est sur un coup de promo pour l'un et pour l'autre.
Ouais,
ouais, on essaie de faire passer un message social et là on est juste sur un t-shirt en fait qui dénonce des violences policières. Alors
qui évidemment, est pas si violent.
Évidemment qu'on les condamne, hein, immanquablement, mais du coup voilà, tu vois, je pense qu'auprès du public ça brouille et qu'on se dit tiens, bah voilà, c'est encore des amuseurs publics.
Moi j'y voyais le rassemblement de deux causes en fait, de deux luttes en même temps.
Ben on peut le voir comme ça, mais après. Ouais. Les
auditeurs se feront leur idée, n'hésitez
pas
à aller voir.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après,
moi, j'étais perplexe en voyant ça.
J'étais très perplexe.
Je sais pas trop quoi en penser.
Je pense que le grand gagnant dans l'histoire, c'est Jules. Mais bon.
Il y a des chances.
Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres news? Non.
Anthony?
Non.
Non.
Bah, comment ça, non?
T'as pas de news?
Bah, faut qu'on le mette sur les news la semaine prochaine. Hein.
C'est clair.
Allez, vendu.
Qu'est-ce que j'avais dans le coin?
En direct.
C'est une mauvaise idée, tu le sais.
Pourquoi? Tu vas cartonner.
Non, je me tiens pas à former en plus. C'est le pire.
Bon, bah tant pis.
Non, il y avait de très très chouettes expos à Angoulême, hein, pour revenir encore une fois à Angoulême et puis arrêter de parler un petit peu combat social, etc. Il y avait, moi j'ai vu Calvo extraordinaire. Alors après, elle a l'avantage par rapport à d'autres de pas être là que le temps du festival. Donc elle sera au CNBDI pendant quelques temps déjà. Elle est un petit peu perdue dans un coin, c'est ça ce qui m'a chagriné. Mais Calvo, c'est un grand, grand maître de la bande dessinée française, qui a né au 19e et puis qui a officié jusque dans les années 30, à peu près 37, je crois qu'il est mort en 37. Qui a fait La Bête est morte, qui a fait Rosalie, qui a fait plein d'autres bandes dessinées dont j'ai mangé le nom, et c'est absolument génial. Voilà. L'expo est assez formidable.
Pas mal de couleurs directes, j'ai bien.
Énormément.
J'ai suivi en fait l'expo à travers les photos.
Bah, moins de couleurs numériques, hein, manquablement.
Oui, forcément.
Vu l'époque. Mais non, ce qui est assez impressionnant, c'est. Alors, il y a beaucoup de gouache, beaucoup de peinture, effectivement.
De l'aquarelle, pas mal, j'ai cru.
Bah, de l'aquarelle, oui, mais pas tant que ça. C'est surtout de la gouache. Et ce qui m'a tué, c'est la qualité des pigments par rapport à ce qu'on peut se trimballer aujourd'hui. Savoir que tu exposes une planche aujourd'hui qui a été ancrée il y a environ 20 ans, si elle n'est pas conservée comme elle devrait, elle est complètement passée de couleur. Là, tu as l'impression que ça a été peint la semaine précédente. C'est juste impressionnant. Les bleus sont pétants, les couleurs sont... Non, c'est assez fou. Ouais. C'est assez fou à voir. Si vous aimez un tant soit peu le dessin, la culture, il faut absolument aller voir cette expo Calvo qui doit durer jusqu'en mars, je crois, un truc comme ça, il me semble, que je ne dise pas de bêtises.
Bertrand,
t'es chargé
Calvo.
De vérifier sur Internet.
Je me fais là, est...
ouais, on a décidé d'exploiter en fait les gens.
Bah là, il est
payés.
Sur Pornhub sur son téléphone.
Donc, exactement. Voilà.
Chers auditeurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à taper le lien dans votre barre de recherche.
Ou pas, il n'y a pas de caractère obligatoire.
Bref, bah écoute, ouais, merci.
Bah, avec plaisir.
Pour ce petit retour.
Bah écoute, c'est pas grand chose.
Qui veut se lancer?
Bah moi.
Allez.
Ce serait approprié.
Anthony, vas-y.
Parce qu'après après avoir parlé de d'Angoulême et du coup du côté des dessinateurs, créateurs, etc., moi je vais vous parler du côté libraire et de la vente en librairie. En vous parlant tout simplement du manga de Honda, libraire jusqu'à l'os. Donc petit ovni sorti de moi je savais pas du tout que ça existait.
Un titre étrange.
Oui tout à fait. Encore plus étrange, le personnage principal, Honda-san, est un squelette. Et il faut savoir que Honda-san travaille dans une librairie qui accueille pas mal de clients, tous plus hétéroclites les uns que les autres, et qui a des collègues tous avec une spécificité.
C'est-à-dire.
C'est-à-dire que tout au long du manga, on va donc les découvrir tous avec un attirail particulier sur la tête. On ne verra aucun libraire avec un vrai visage. Donc on aura donc Honda-san qui est un squelette. On va avoir sac en papier qui, je vous le donne en mille, un sac en papier sur la tête. On a masque à gaz, on a masque de chevalier, on a tête de citrouille, bref. Que des trucs comme ça, et qui ne reflètent pas non plus nécessairement le caractère du personnage.
D'accord.
Donc c'est assez, assez drôle et assez amusant, surtout que d'un chapitre à l'autre. Enfin voilà, ça c'est assez amusant. Et dans ce manga, donc, elle va nous décrire un petit peu son quotidien de libraire, avec la personnalité un peu effacée, un peu timide, et souvent impressionnée par les différents clients et leurs demandes quasi hors normes à chaque fois. Donc s'il y a des libraires qui nous écoutent, peut-être que vous aurez déjà vécu certaines anecdotes qu'on peut voir dans ce tome. À savoir, par exemple, un papy qui cherche du coup un livre ou un manga pour sa petite-fille ou son petit-fils, dont lui, en fait, a complètement écorché le nom. On cherche pendant des heures, on sait pas trop, et on a peur de le... vous connaissez la politesse à la japonaise, on a peur de pas le satisfaire, de le mettre en colère, etc.
D'accord, mais même sur un libraire, on va dire classique, on va pouvoir chercher un album, une BD avec un nom qui est pas forcément tout à fait le bon, avec une description partielle de la couverture, et ça peut être à mon avis, chez certains libraires qui ont un achalandage assez important, ça peut être un truc de compète en fait, de trouver le bon titre.
C'est ça. Et donc c'est ce casse-tête qu'en fait on découvre au fur et à mesure des pages, car les chapitres en général sont l'introduction en fait à un type de clientèle particulier ou à la gestion d'une librairie. Je prends l'exemple par exemple d'un des premiers chapitres qui m'a pas mal marqué, qui est sur les fans de yaoi ou du moins de romance entre hommes qui visent les femmes. Et les jeunes filles. Et donc, elle nous décrit même physiquement comment ces personnes, elles se comportent, comment elles sont, etc. Enfin, on sent qu'elle a eu le temps de beaucoup observer les gens. Et des fois, je me demande si les visages, en fait, des libraires ne sont pas cachés juste pour éviter qu'ils ressemblent
à des vrais libraires.
C'est ça.
Vivants.
Donc, c'est très amusant. Même si c'est très fantasque, ça a l'air très ancré quand même dans la réalité.
Ok. Et ça se présente comment ? C'est une histoire au long terme ou c'est des petites scénettes
C'est plus, plus des scénettes, oui, comme une espèce d'anthologie. Il n'y a pas vraiment de lien entre les chapitres. C'est plus un quotidien, voilà.
Et
donc on a ça, et en fait la particularité aussi de ce manga comparé à d'autres qui pourraient parler de librairie, je pense par exemple au Maître des Livres, dans Libraire jusqu'à l'os, en fait la narration ne nous laisse jamais souffler, c'est-à-dire qu'en fait tout se passe très très vite, en fait on a l'impression que toutes les décisions sont extrêmement rapides, que les discussions vont toujours à 2000 à l'heure, même l'enchaînement des cases et le dessin en fait rajoute cet effet-là. C'est-à-dire qu'on va avoir des exclamations avec des gros caractères, on va avoir des lignes de fuite derrière les personnages qui indiquent un mouvement subi. Plein de choses comme ça en fait qui nous donnent l'impression.
Il y a un rythme imposé qui est assez important.
C'est ça, je me suis surpris à être essoufflé des fois au détour de certaines pages, j'ai l'impression de le lire beaucoup plus vite que je ne le devrais. Donc c'est original et assez amusant pour le coup. En tout cas, ça forme l'identité entière du bouquin. On a la personne, on a l'impression que c'est une vraie personne qui s'est dessinée en manga. On a la narration qui est très rapide. Et en même temps, on a ça donne l'impression en fait que le métier de libraire, je dis l'impression parce que je ne connais pas du tout, que le métier de libraire en fait justement lui aussi se déroule à 1000 à l'heure, qu'il y a toujours des dates dans le calendrier, qu'il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent, etc. Et pour moi qui fantasme un petit peu le métier de libraire, parce que j'aime beaucoup aussi les bouquins, c'était une découverte vachement intéressante.
Ok. Tu confirmes
un petit peu. C'est un roman, c'est un manga autobiographique.
D'accord.
Honda, c'est elle-même en fait la libraire.
Ah ben voilà, tout s'explique.
La mangaka est la libraire du truc.
C'est top classe.
Parce qu'à part, s'appelle Mademoiselle Honda la libraire.
Si.
À quand quoi.
Et l'auteur s'appelle Honda.
Oui.
un album conjointement avec ta chère et tendre.
Bah je sais pas, faut voir. Hein. Ça peut être...
Bah en tout cas, chose qu'on apprend également justement dans la couverture, c'est qu'il existe une version animée.
Ouais,
c'est
vrai.
Sur oui, j'ai pu en voir quelques brides sur grâce à YouTube et sinon sur des fournisseurs de streaming de manga.
D'accord. Et toujours sur le même type hyper rythmé.
Ouais, c'est l'animé en fait va être assez statique dans son animation, mais la narration reste en fait assez nerveuse de par le caractère un peu nerveux de la narratrice de Honda. Qui okay. Elle-même se retrouve vite stressée et dépassée en fait par les demandes des clients, etc.
Bah écoute, voilà. Donc, découvrir du coup.
Oui, à découvrir, et puis ça n'engage à pas grand-chose, mine de rien, parce qu'on peut lire également dans la couverture que Honda avait demandé qu'il n'y ait pas de numéro 1 sur la couverture parce qu'elle ne pensait pas sortir un numéro 2. Mais maintenant qu'ils l'ont fait, j'ai plus d'idées, mais bon, il va falloir creuser quoi.
D'accord,
c'est Bertrand, classique ça, c'est classique.
Niveau. Il y a d'autres volumes après ou pas?
Il y en a 4 terminés au Japon.
C'est terminé en 4. Ouais. Donc encore une petite série qui ne prendra pas beaucoup de place. En France, on a un équivalent avec Animal Lecteur qui a déjà plus de tomes que ça. C'est pas toujours ultra drôle, moi, mais j'avoue que c'est la vie d'un libraire en fait.
Le passage qui m'a pas mal fait rigoler, c'est au moment où elle fait un stage pour, de relations clientèle. Ce genre de stages d'entreprise qui sont souvent très absurdes et ennuyeux à mourir, mais là du coup ils le tournent d'une manière
très très drôle,
risible, ouais. C'est pas mal. Donc c'est Libraire jusqu'à l'os de Honda-san chez Soleil Manga.
Ok,
c'est un seinen.
Merci Anthony.
De rien.
Bon, seinen, ça peut aussi fonctionner pour les plus jeunes, mais ce sera peut-être moins intéressant.
Ce sera, à mon avis, moins amusant pour eux, ouais, parce que quand je te dis, la narration va quand même relativement vite. C'est assez éloigné du code des codes des shonen, en fait, pour les plus jeunes.
Oh, ok. Merci, Anthony. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Il est 19h17 sur le 101.5 de Radio G.
Pour revenir juste sur l'exposition, elle se finit le 31 mai, du coup.
Ah, merci Bertrand. Ça fait quasiment 6 mois dans Radio Jeu.
Quelle célérité, merci Maître Capello.
De rien.
Quasiment 6 mois d'expo. Hein.
N'hésitez pas à
quasiment 6 mois d'expo, ouais, donc ça vaut le coup.
Ouais, c'est beaucoup. 31 mai, ça finit. Oui, c'est long.
Mais ouais. C'est pas Gunem, Corée Haute.
D'accord. Allez, on
continue cette voie-là.
Allez, après sur la musique. Une pause musicale avec un morceau sélectionné par Bertrand, si vous aimez pas. Avec, je te laisse annoncer Bertrand.
Alors c'est Marraine de Mano parce qu'ils ont sorti un album il y a pas longtemps.
Voilà. Ben,
ceux qui ne savaient pas, n'hésitez pas.
Marraine, la bonne fée.
Voilà.
Enfin cette nuit s'achève sous les peaux près de moi. Les miens font encore des rêves blottis là dans ce bois. Allongé par terre près de la sève qui ne connaît pas la fièvre de nos combats. Et je regarde plus loin, la lumière là-bas éclaire déjà très bien le chemin qui nous emmenait naguère près des forêts de pins où les anciens ont levé les pierres pour combattre les enfers. Je me souviens, je serai bien le plus fort, celui qui délivrera la peur de nos corps, emportés par toutes ces voix, ces chants en accord qui envahissent la plaine pour ne plus avoir de haine. J'ai de la peine et j'essaie de me dire que le monde sous mes pieds n'est qu'un empire dont tu es la reine. Et j'essaie de bâtir un royaume, mon aimé. Et Atlas se redresse comme un grand champ de menhir. Et devant moi apparaissent des regards et des sourires, des visages que les dieux connaissent, et des druides pleins de sagesse. Défions le pire, c'est sûr, nous serons meilleurs, tous unis ensemble afin d'être à la hauteur. L'hydromène en transfera battre tous nos cœurs, ainsi des phénomènes qui seront toujours les mêmes. Dieu que je t'aime, et j'essaie de me dire que le monde sous mes pieds n'est qu'un empire dont tu es la reine, et j'essaie de bâtir un royaume, mon aîné. Et j'essaie de m'écrire un destin qui nous mène à l'élixir dont tu es la reine, et mes pensées, elle est forte, elle est là, elle ne peut que durer. Je l'entends près de moi qui ne fait que prier pour mon âme. La déesse saura me protéger. Tu le sais, mon amour, je suis à toi. Les vérités parfois ne comptent pas. Cette aventure n'est pas celle qu'on croit. Je suis ici, mais aussi dans tes bras. L'avenir, non, je ne le connais pas. Je ne sais pas ce qu'il se passera là-bas. Mais mon cœur sera bien celui d'un roi pour défendre ma reine, la tribu de Dana. J'essaie de me dire que le monde sous mes pieds n'est qu'un empire. Tu es la reine et j'essaie de bâtir un royaume, mon aîné. Et j'essaie de m'écrire un destin qui nous mène à l'élixir dont tu es la reine, et j'essaie de me lire afin de m'oublier.
Allez, c'était Mano sur le 101.5 de Radio G.
Ah, il a vomi du nez.
Et vous êtes à l'antenne, les gars. Hein.
C'est pas grave. Faut que, ah, les, gens... Faut que les gens sachent.
Ah, bon. On...
Non, mais voilà. Si les gens veulent savoir ce qui a fait rire Tony, c'est parce que j'ai éternué.
Ouais, mais... Pour vous mais les gens t'ont entendu, hein, parce que c'est pas parce que t'étais loin du micro qu'on n'entend pas ce qui se passe dans la pièce. On entend moins bien, mais on entend.
On m'a entendu éternuer.
Oui, voilà.
Ah.
Moi, j'aurais pas appelé ça éternuer.
Je pense qu'il y a même des gens qui l'ont dit qu'on le dira des souhaits. De retour sur la case de Seb, où on éternue, on est malade, on a peut-être chopé le coronavirus, on sait
arrête,
pas.
Dis pas des trucs comme ça. Non, mais ça, c'est de blague. Non,
bah, non mais c'est pas une blague. On
peut. Elle est sanctionnée par 2 personnes sur 4 sur 3.
Ah, d'accord. Ok, pas de problème.
Le comité a voté, cette blague n'est pas validée.
Bon, c'est une dictature maintenant.
Non, ah non, justement, 2 personnes.
Moi, je veux pas qu'on en parle parce que je suis hypochondriaque, c'est tout.
Ah, mais d'accord. Ah, non, c'est un autre problème.
Non, parce que après, Bertrand, il fait son pinochet.
C'est vrai, ça, c'est vrai que c'est possible que ce soit le coronavirus en plus. Donc,
Allez, vas-y, bienvenue sur la case de Seb, l'émission la plus anxiogène de, du 101.5 de Radio G. On est toujours là pour parler bande dessinée. Qui veut s'y coller? Moi, je peux en faire une, on repasse une journée derrière.
Moi, j'ai pas vraiment de chronique à proprement parler, hein, donc je peux parler des livres que j'ai lus et que j'ai aimés, ouais, un peu comme l'a fait notre ami Anthony.
On n'a pas entendu Tony la semaine dernière, je propose de l'entendre.
Avec force superlatif, et c'est très bien. Moi, je veux bien en parler, c'est pas un souci. Mais vas-y,
j'en fais une.
Mais
ben
oui, ben bien sûr, oh là là.
Là, je vais vous parler de Prodigy, une production Millarverse attachée à Netflix maintenant, du coup. Donc, scénarisée par Mark Millar. Si vous avez connu pas les références, Mark Millar, qui casse.
Ah oui, 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 voilà, oui ça y est.
Ah, oui.
Donc depuis quelques années en fait...
Donne-lui des noms d'auteurs, donne-lui des noms de séries.
Depuis un an maintenant, le Millarverse qui a été créé par Mark Millar a été racheté par Netflix. Et là je voulais parler de Prodigy qui est la deuxième production estampillée Netflix, donc le deuxième comics avec le petit logo rouge bien connu sur la tranche, publié chez Panini Comics, associé avec le dessinateur Raphaël Albuquerque. Prodigy, sous-titré en gros La Terre Maléfique, regroupe les épisodes 1 à 6 de la production américaine. Et vous allez me dire de quoi ça parle.
Mais de quoi ça parle, Seb?
Eh bien, je vais pas vous faire le résumé parce que je trouve qu'il n'est pas parlant, puisqu'il ne parle d'absolument rien. Ça parle d'un monsieur qui s'appelle Edison Crane. Edison Crane qu'on peut découvrir sur la couverture assis tranquillement sur une chaise avec un livre ouvert à la main et un. on va dire une Kalachnikov, hein, faute de mieux, dans la main gauche, livre ouvert dans la main droite, gentiment assis en tailleur avec un super costard. On devine que la personne est plutôt instruite puisque il a un violon, il y a un jeu d'échecs derrière, et puis surtout il y a une espèce de gigantesque tableau noir couvert de d'équations dont je comprends pas la moitié. Il y a même des symboles, je ne savais pas que ça existait.
Franchement, il y a rien d'exceptionnel.
Sur les équations ?
Non, ça va, c'est ok.
Ok.
Il y a des sommes, il y a des fonctions, tranquille.
D'accord, mais ça a l'air compliqué. Ouais, de toute façon, tu mets des chiffres, ça a l'air compliqué. ça devient... Et du coup, en fait, cet homme, Edison Crane, est juste bêtement l'homme le plus intelligent du monde. Alors, pourquoi ? On ne sait pas vraiment, mais il est capable de faire beaucoup de choses en même temps. Il est capable de répondre à des défis les plus barrés, puisque par exemple, au tout début, en fait, il y a un jeune garçon qui lui propose de faire... et si vous sautiez au-dessus du Grand Canyon sur une moto, sans parachute, avec le corps en feu, et en lâchant la moto au milieu, eh ben, il le fait, tout en atterrissant dans une piscine.
Ouais, c'est beau.
Et il faut savoir que pendant qu'il fait il est aussi en train de calculer comment résoudre le problème d'une météorite qui, d'ici 10 ans, va impacter la Terre. Il est en train de résoudre je sais plus quel autre problème. Ce type est hyper intelligent et il a besoin de stimulus tout le temps. Et il faut savoir que il se stimule de la manière le plus importante en résolvant tous ces problèmes qu'on lui pose. Quand il avait 8 ans, y a les parents de... ses parents ont reçu d'autres enfants, d'autres personnes, et le petit garçon avait un problème cardiaque. Alors il s'est dit, tiens, pourquoi pas l'opérer. Donc le gamin de 8 ans fait une opération à cœur ouvert, et quand les parents font « Ah mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Il fait « Non, ne vous inquiétez pas, j'ai cotorisé et j'ai fait tout le machin, et puis il va être rétabli beaucoup plus rapidement que prévu, parce que du coup, dans les hôpitaux, ils ont eu des protocoles un peu compliqués, moi je les ai fait et mieux. » Et du coup, parce qu'il est super intelligent, il est devenu super riche, l'un souvent avec l'autre. Je ne veux pas que je comprenne pourquoi je ne suis pas riche, moi. Et du coup, en fait, on a...
Si tu comprends rien à la bourse, voilà pourquoi.
Oui, mais
c'est ça, mais apparemment, c'est super simple, en fait, la bourse, visuellement. Et du coup, en fait, cet homme va être mis face à un défi hyper impressionnant, puisqu'il y a des véhicules qui vont apparaître de nulle part. Il y a des gens qui vont mourir. Sans raison apparente, et on a l'impression en fait que ce sont des gens qui viennent soit du futur, soit d'un autre monde. Et Alison Crane va être contactée par une jeune femme qui va lui dire, écoutez, moi je bosse pour la CIA et on sait ce qui se passe, et il faut qu'on retrouve une ancienne prophétie cachée dans la bibliothèque du Kremlin. Et là Alison Crane appuie sur un petit bouton et puis fait allez, annulez mes rendez-vous pour le reste de la semaine, j'ai une affaire intéressante. Et ça va partir en non-stop action de bout en bout. Ils vont aller au Kremlin, où tout le monde au Kremlin l'accueille de manière très très accueillante, puisqu'il a aidé beaucoup de problèmes. C'est quelqu'un qui est hyper influent, hein, de par son extrême intelligence. Et ça rend le truc complètement barré. Ça passe extrêmement vite. C'est un album qui se lit d'une traite. Par son intelligence, Edison Crane est à la fois un personnage qui est, hyper charismatique, mais hyper chiant en fait aussi. Parce que du coup, il résout tout.
La tête de... Le petit...
Sherlock Holmes, ça.
Je dis la tête de turc qu'on avait en classe qui... Voilà.
Ouais, sauf que lui, en plus, il a raison. Parce qu'en classe, t'avais toujours une tête de turc qui...
l'intello qui avait toujours raison, mais qu'en même temps...
Il faut savoir que bananes, non seulement il est intelligent, mais en plus il est capable de se battre. T'as plein de petits flashbacks en fait qui montrent comment il était quand il était petit. Costaud, ouais. Il se fait taper sur la tronche étant gamin. Il va regarder des films de Bruce Lee. Le lendemain, il fait du kung-fu. C'est un mix entre Neo, Batman. Il y a vraiment plein d'inspirations qui font que le type est hyper efficace. Donc c'est mené tambour battant. Ça part à 100 à l'heure dans tous les sens. En plus, graphiquement, je trouve que c'est franchement bien amené. Les scènes sont dynamiques. La couverture, la couverture m'a vraiment tapé dans l'œil. Elle était plutôt efficace. Et ça marche plutôt bien. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui au final est hyper court en fait à lire. malgré un tome qui est quand même plutôt épais, et ça, ça roule tout seul, quoi.
Ouais, c'est en plus ce que je voyais tout à l'heure quand tu montrais la scène où il saute par-dessus le ravin avec une moto enflammée. Les couleurs aussi sont très jolies. Franchement, elles pètent, c'est vachement classe. Et quand tu faisais la description, je pouvais pas m'empêcher de penser à une espèce de Sherlock Holmes à l'américaine, en fait.
C'est ça.
Parce qu'il y a les bouquins, il y a le tableau noir, il y a le violon. Les échecs, le seul truc qui fait américain, c'est je sais pas, les dessins et les gros bijoux, quoi.
Alors, faut savoir que le fait que tu parles de Sherlock Holmes, c'est hyper intéressant, puisque à un moment, on te montre l'intérieur de la tête d'Edison Crane et comment il fonctionne. En fait, dans sa tête, il a plusieurs alter ego de lui-même, alors c'est de l'image, hein, bien sûr, qui sont chacun en train de travailler sur un problème. Donc il y a un morceau de lui-même qui est en train de travailler sur le météorite, un morceau de lui-même qui est en train de travailler sur le prochain défi du gamin qui lui a lancé, je sais plus, c'est sauter en voiture au-dessus de 3 étages, atterrir à un étage spécifique tout en évitant des missiles. C'est à peu près de cet ordre-là. Et puis à un moment il fait, tiens, le problème est un peu plus compliqué. Et toi là-bas, arrête de bosser sur le météorite, viens m'aider. Et du coup les personnages, ces neurones presque, on pourrait dire, interagissent entre eux pour arriver à faire un truc un peu plus complexe que d'habitude. Et du coup c'est hyper c'est bien représentatif, on est assez proche en fait des mécaniques du cerveau de Holmes qu'on pouvait avoir dans la tête de Sherlock Holmes par exemple, avec tous ces petits tiroirs, et ça marche franchement bien. C'est énormément capillotracté, je pense que personne n'est capable de dire si je saute par la fenêtre à telle seconde j'atterrirai sur le repose-pied de l'hélicoptère, je me serais pris une balle mais c'est pas grave, je serais capable de me soigner juste après. Ça, je pense que humainement, ou alors on n'a pas encore vu de personnes qui sont capables de faire ça. Peut-être Bill Gates.
Non, mais ça participe vachement en fait au mythe du surhomme qu'on peut voir en fait depuis plusieurs années maintenant dans les séries ou dans les films, que ce soit en fiction ou pas. C'est ce côté où cette personne, avec un entraînement ou une intelligence hors norme, peut faire des choses qu'un humain normal ne peut pas faire. Je pense par exemple, tu vois, à la série Lie to Me ou des choses comme ça. Tu vois, c'est assez intéressant, c'est dans cette démarche-là en fait.
Ah voilà quoi. Donc Prodigy de Marc Millar, scénarisé par Marc Millar et dessiné par Raphaël Albuquerque. C'est aux éditions Panini Comics, Netflix. Et c'est sorti il y a un petit moment quand même, mais c'est plutôt cool. Moi j'attends toujours de voir en fait ce que vont faire Netflix avec ces comics-là, si ils se lanceront en fait un jour ou non dans la production animée de ça.
Ah, ce serait bien.
Ça pourrait être sympa. Hein.
Là, je me faisais la réflexion si le fait qu'il y ait marqué Netflix sur leur bouquin,
ouais,
ça attire les gens. Il y en a certains qui ne l'achètent pas justement parce qu'il y a marqué Netflix.
Eh bien, aucune idée. Il faudrait questionner des libraires demander, éventuellement ouais, là-dessus, parce que je n'en ai aucune idée, mon cher ami.
Je sais pas, bizarre.
Allez, Bertrand, tu voulais enchaîner sur quelque chose ?
Ah bah si tu veux.
Enchaîner. Je veux.
Allez. Donc ce soir, on va vous parler de Gamaran, le tournoi ultime de Yosuke Nakamura chez Kana. Je vous avais un peu parlé il y a quelques émissions de Gamaran. C'était un manga qui était sorti en 2009, qui est plutôt connu, qui a plutôt bien marché, qui fait plutôt... c'est une sorte de référence dans les mangas sur le samouraï, sur les combats d'épée, etc. Et donc là, il s'offre une suite. Et aux commandes, on retrouve, heureusement, le même mangaka dont on est sûr qu'il va pas détruire son joujou. Donc à la fin de ce premier tome, d'ailleurs, on peut lire quelques raisons sur l'apparition de cette série. Donc pour Gamaran, en fait, Nakamaru, il avait eu du mal à tenir le rythme des publications au Japon, parce que, bon, voilà, vous savez que pour les auteurs au Japon, c'est très compliqué de maintenir
c'est hyper tendu,
une publication. Ouais. Ouais, c'est hyper tendu. Et donc il avait décidé, un an avant la fin, de qu'il mette un trait à sa série, un an avant, ils avaient prévu un an avant, on s'arrête dans un an. Et donc après pas mal de repos, voilà, il est quand même mangaka, Nakamaru. Donc il s'est dit, je vais me relancer dans l'écriture, et il avait proposé pas mal d'histoires inédites. Mais malheureusement, il n'y en a aucune qui a percé. Et après un énième échec, c'est son responsable éditorial qui vient lui dire, est-ce que tu n'écrirais pas la suite de Gamaran ? Parce qu'en fait, Gamaran, la fin, il y a une sorte de fin, mais on peut très bien imaginer une suite. Non, parce que là, à la fin de Gamaran, il y a encore bien assez de personnages en vie pour continuer, donc voilà.
D'accord, la porte est ouverte. La porte était ouverte, du coup.
La porte était ouverte et la
puisque
porte a été ouverte.
Elle a été ouverte. Voilà.
Et
c'est,
donc, c'est presque poétique, cette chronique. Donc après la relecture de ces 25 tomes, il se dit que certains personnages méritent bien qu'on écrive une suite, et il l'a fait. Donc petit rappel de Gamaran. C'est un manga qui se passe à la fin de l'ère Edo, dans une région qui est devenue le lieu de rassemblement privilégié des adeptes des arts martiaux. Et c'est là même que va se dérouler le légendaire grand tournoi permettant de déterminer le guerrier sans égal. Que de mots magnifiques. Tout Gamaran donc repose donc sur des duels d'arts martiaux. On retrouve des sabres, des épées, des lances ou encore des arcs ou autres bizarreries. La puissance du manga, ça repose sur la précision des scènes de combat, sur la pureté du dessin et sa précision, ainsi que le charisme de chacun des personnages. N'importe quel personnage secondaire est plus travaillé et badass que le précédent, jusqu'à ne laisser à la fin que la crème de la crème du combattant badass, avec chacun une aura propre que le mangaka arrive merveilleusement bien à retranscrire par les traits de son dessin. À la fin, c'est des sortes de duels entre des monstres, mais c'est là tout le côté magnifique du manga et l'intérêt du manga. Et les mots choisis avant, pendant et après un duel sont aussi toujours marquants et apportent souvent une leçon de vie à nos personnages. Dans les moments creux du récit, Yosuke arrive aussi avec merveille à apporter une petite touche humoristique qui est toujours importante dans un manga, moi je pense. Un manga sans humour, ce n'est pas un manga. Qui ne fait pas de mal tant le rythme et l'intensité des combats est élevé. Donc Gamaran, le tournoi ultime, ça va se passer 2 ans après la fin du précédent opus. Yuri Sengoku, pour ceux qui n'ont pas lu l'œuvre, ça ne dit rien, mais Yuri Sengoku, c'est lui qui est devenu le guerrier sans égal, c'est celui qu'on voit sur la couverture. Et l'ambiance propre à cette série revient très rapidement. On est immergé de nouveau dans ce monde à la fois si simple et cruel que l'on peut résumer par être le plus fort ou mourir. Pour le moment, au niveau histoire, rien de nouveau. Un énième tournoi est annoncé entre les meilleurs combattants du monde, même si on peut se demander s'il en reste encore assez après la fin de Gamaran. Petite nouveauté, un des personnages principaux est une jeune combattante, Ran Ikinoz. Et c'est vrai que dans Gamaran, on n'avait aucun personnage féminin. Je ne crois pas, hein. Peut-être je me trompe.
Je ne peux pas te confirmer.
Je crois qu'il y avait une qui cachait sa sexualité. Qui cachait son genre.
Oh, tu veux nous...
qui cachait son genre. Et du coup, on croyait que c'était un homme. En fait, c'était une femme. Mais je crois qu'il y avait juste ça. Mais il n'y a pas de femme qui se battent. Et donc, dans Gamaran, le tournoi ultime, un des personnages principaux est une femme qui cherche à devenir, elle aussi, le guerrier sans égal. Et donc, on se dit très rapidement, est-ce que le mangaka, il va pas nous parler de l'égalité homme-femme? Mais non, très vite, il met cette jeune femme devant la cruauté et la brutalité du monde dans lequel elle est. Et que, voilà, que ce soit une femme ou un homme, ça a très peu d'importance, il faut juste qu'elle soit la plus forte. Et personne ne retiendra ses coups face à elle. Et j'ai même envie de dire que c'est le contraire. Il y en a des hommes qui ne veulent pas perdre face à elle, donc ils s'y donnent encore plus. Malgré cela, Ran ne veut pas reculer et semble prête à mettre toute sa vie en jeu pour accomplir son rêve. Ce premier tome ravira les grands fans de Gamaran par l'apparition de certains personnages et le retour de leur univers préféré, et sera idéal pour tous les nouveaux lecteurs. Nul besoin d'avoir lu Gamaran pour commencer cette série, ce tome 1 fait très bien son office pour nous introduire les enjeux naissants de cette toute nouvelle aventure. Donc c'était Gamaran, le tournoi ultime de Yosuke Nakamaru chez Kana. Donc il y a actuellement 3 tomes de sortie en France et le 4e est prévu pour le 28 février.
Alors c'est rigolo parce que du coup je ne connaissais pas vraiment Gamaran,
ouais.
Et j'ai l'impression que c'est un melting pot d'influence. On retrouve des personnages qui vont ressembler un petit peu à Zoro de One Piece, tous les bretons, ouais. En fait qu'on peut avoir vu dans d'autres séries. Ran, elle ressemble pas mal à Kenshin.
Ouais.
Il y a plein de on a l'impression de connaître tous ces personnages en fait.
Ouais, c'est parce qu'ils sont inspirés de pas mal d'univers, de pas mal de choses. Même bon, là, un des personnages principaux de Gamaran qu'on retrouve. C'est une sorte de spoil, ça. Qu'on retrouve. vous allez avoir le bonheur de le retrouver. C'est vrai qu'on le retrouve. Moi, ça me faisait penser à un personnage de Hunter x Hunter. Voilà, c'était que des personnages.
Mais des personnages, ouais. Soit Hunter x Hunter. Et des personnages,
même des personnages de Bleach.
Qui viennent de Bleach.
Voilà.
C'est l'impression qu'il y a. De quoi?
Il y en a, je suis tombé, on dirait le personnage principal de Gintama.
Ah, si.
Aussi, ah, oui.
Oui, les deux se ressemblent. Donc,
Y a plein de... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que le lecteur va retrouver des influences. Moi, j'ai retrouvé des influences de Samurai Deeper Kyo aussi.
Ouais.
Et tout le monde va retrouver en fait ses influences et je pense que ça peut effectivement ça tourne pas juste trop au tournoi affrontement que personne contre personne et puis après
non parce que c'est pas un tournoi où ils vont dans un certain endroit précis et s'affrontent les uns les autres. C'est une sorte de tournoi où chacun reçoit en fait une invitation et doivent se rendre à un certain lieu et sur le passage en fait les participants au tournoi ont le droit de s'affronter.
D'accord.
Donc les combats ont lieu à différents endroits, c'est juste pas dans un endroit clos. Et en fait, bon, il faut lire le manga pour se rendre compte, mais moi, regarder des combats dans un manga, souvent je lis très vite les pages, je les passe très vite, et ça m'intéresse pas tant que ça. J'ai vu le combat, je sais pas trop ce qui s'est passé, je vois juste qui a gagné. Et là, vraiment, c'est ce qui est intéressant avec Gamaran, c'est on met un coup d'épée, on met un tir à l'arc, enfin, il met un coup de flèche. On voit la trajectoire de la flèche, on l'imagine très bien, on voit le coup, comment il part avec quelle partie de l'épée. Tout est très très réaliste, le réalisme est poussé à son paroxysme. Et voilà, on est emporté dans le combat et c'est vraiment impressionnant de voir comment il arrive à... On est les combattants, en fait, c'est tout à fait réaliste, malgré les forces surhumaines qu'ils ont, voilà.
Vu que du coup j'ai le tome sous les yeux et que je suis en train de feuilleter depuis un petit moment, c'est complètement vrai ce que tu dis. Je le vois notamment dans la posture des personnages.
Ouais, lorsqu'il
porte un coup ou la posture juste avant, il y a un côté très réaliste et reproductible. C'est pas du tout dans le côté sensationnaliste.
Oui, et puis tu vois, quand ils prennent un coup, ils ont pris un coup, quoi. Ouais. Ils sont blessés.
Et ça les rend pas
là où dans un manga, souvent quand tu prends un coup, trois pages après. T'as jamais pris de coup, c'est Dragon Ball quoi.
Et puis tu vois, le réalisme des postures et etc. pourrait nous indiquer peut-être un certain truc un peu plat, un peu ennuyeux, alors que pas du tout. Franchement, pas du
non,
tout.
Non,
j'avoue que là, on ressent le. Là, il y en a un qui tape du pied. Franchement, je ressens le.
Oui, mais ça me parle. Quand tu tapes du pied pour de vrai, les gens l'entendent.
Ah,
ben oui.
Encore ça. Bon. Et au niveau des styles aussi, là, du coup, la plupart des costumes respectent l'époque à laquelle le récit se place. Mais par contre, au niveau des coiffures, c'est vrai, on reconnaît des styles qui viennent de manga, mais même d'époques différentes.
Ouais.
Tu vois, par exemple, l'héroïne, moi, sa coiffure me rappelle celle de Lynn dans Fire Emblem, qui date quand même des années 90. Si je dis pas de bêtises. Et il y a d'autres personnages comme Yen Shiba qui a une coiffure beaucoup plus contemporaine qu'on pourrait voir dans un Naruto ou dans un autre manga de 2010, quoi.
Et donc là, en plus, Gamaran, c'était quelque chose qui s'est passé complètement au Japon. Voilà, c'est resté au Japon. C'était quelque chose que des combattants japonais. Et là, le tournoi ultime, en fait, ça va être les combattants du monde entier. Donc, on peut espérer voir des
choses un petit peu plus différentes.
Peut-être des Brésiliens, des choses comme ça. On verra. On verra ce qu'il propose.
Je vais juste finir sur un tout petit point, parce qu'on parlait de la précision de l'action et tout. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que les actions sont décomposées de manière assez importante. Et on a, notamment sur un combat que je parcourais tout à l'heure, les pensées et la façon d'imaginer la parade.
Oui, ils disent ce qu'ils vont faire, pourquoi ils ont fait ça.
Réfléchissent en fait.
C'est ça.
Donc ça permet peut-être une immersion plus importante aussi dans la psyché des personnages.
Il y a certains personnages qui sont très cérébraux, on va avoir beaucoup leurs pensées, et d'autres personnages qui sont souvent c'est les méchants, qui sont plus brutaux, plus spontanés, et eux on va pas trop savoir ce qu'ils pensent. On est vraiment dans la posture d'un des combattants et pas du deuxième, quoi. Donc
D'accord. Voilà. Bah, c'est plutôt sympa.
On est souvent dans l'un des deux, quoi.
Merci Bertrand, tu redonnes les références ?
Ah oui, alors c'était Gamaran, le tournoi ultime de Yosuke Nakamaru chez Kana, et donc 3 tomes, bientôt 4.
Eh ben écoute, merci Bertrand.
De rien.
Tony,
oui.
Tu voulais...
Pas du tout.
Allez,
si,
bonne
si.
Journée.
Ah, excusez-moi, j'étais mort de vieillesse, pardon.
Ah, sympa, génial.
Du coup, voilà.
Du coup, je n'ai pas écouté sa chronique.
Eh ben, tu peux parler de Bitterroot. C'est celui certainement que tu le mieux
préparé. Le plus lu, non. Bah, forcément, en général, je les lis une fois chacun. Donc, Bitterroot de chez iComics.
Ça avait l'air de t'avoir pas mal plu la dernière fois que je t'ai vu.
Sur le papier, ça m'avait plu. Après, ils en avaient fait une promo un peu plus appuyée que pour d'autres séries, parce que c'est apparemment une série à laquelle ils croyaient pas mal. Rapport au fait qu'elle a remporté un Eisner Award, donc ça c'est quand même pas mal. L'Eisner Award, c'est l'équivalent de l'Oscar ou du César dans le monde du cinéma, en tout cas Outre-Atlantique, c'est la récompense ultime pour les bandes dessinées. Et voilà, en 2019, meilleure nouvelle série, Bitterroot. Alors Bitterroot qui pourrait se traduire par racine amère, qui fait référence au vaudou qu'on a qu'on retrouve très présent dans cette bande dessinée. Sébastien qui est en train de décéder au moment où je suis en train de parler. Est-ce que ça va mieux?
Ça devrait aller mieux. J'ai pas le droit de vous dire pourquoi je suis malade, donc sinon tu vas paniquer.
Ah bah non, surtout pas. C'est quoi? Non, c'est tu tousses
non,
pas.
Mais je tousse en fait.
Il a pas toussé vers toi, mais t'inquiète pas. Aucune germe.
Tu rigoles, c'est à moins de 20 mètres. Je suis à combien là?
Et il a tourné vers la droite, regarde.
Je ne pas le savoir.
T'imagines que si c'est ce qu'on pense, on est cloîtré pendant cette pièce pendant plusieurs jours.
Si c'est ce qu'on pense, tu vas m'entendre gueuler.
Moi, il a toussé, j'ai senti un vent.
C'est une certitude. Voilà. Pour retrouver le fil, je vais lire le résumé de la quatrième de couvre en tant qu'à faire.
Bah, oui.
Alors, les Sangiri étaient autrefois connus comme la plus grande famille de chasseurs de monstres de tous les temps. Leur spécialité, point d'interrogation, purifier les âmes infectées par la haine qui transforme les êtres humains en démons hideux. Mais une terrible tragédie a décimé la famille et les survivants sont désormais divisés par les blessures du passé et par leur méthode. Sauver ou tuer ces créatures. Confrontés à un nouveau type de monstre qui sévit dans les rues de Harlem, les Sangiri vont devoir s'unir et combattre ou regarder l'humanité s'effondrer dans un mal encore plus profond. 3 points de suspension pour laisser un léger suspense.
Tintintin.
À mi-chemin entre Ghostbusters et The Goon, alors ça je suis pas forcément. Je trouve que c'est pas forcément les meilleures comparaisons, mais bon. Bitterroot dépasse largement la chasse aux monstres et se veut un reflet des maux qui rongent la société. Tu peux remettre un tintintin.
Tintintin.
Et du coup, deux petites phrases en fait qui sont sorties de Peter Ramsey. J'ai adoré plonger dans le monde de Bitterroot, horreur, conjuration et dynastie de chasseurs de démons dans le Harlem des années 20, tout y est. Dans la même veine que Get Out et Black Panther, Bitterroot est un récit qui sort incroyablement du lot à IPT. Alors après, si c'est comparé à Get Out et Black Panther, c'est uniquement parce que c'est une famille afro-américaine. Donc voilà, nous avons. C'est Buffy contre les vampires.
Afro.
Rencontre Cosby Show. C'est un peu ça le. C'est un peu ça l'idée. Donc, moi j'ai trouvé ça diablement bien gratté parce que sur la couverture on a une espèce de photo de famille. Alors après, c'est appuyé par le titre du tome 1 qui s'appelle Affaires familiales. Et on voit un espèce de personnage en fait qui est un peu harnaché au milieu. Alors, un personnage qu'on ne comprend pas tout de suite. On voit que ces personnages sont affublés d'armes qui ne semblent pas d'époque. Ce sont des armes un petit peu... On est presque dans du steampunk, hein. Même si on est dans les années 20, on est quand même sur quelque chose d'assez appuyé en termes de... Même si c'est dans le Harlem des années 20. Et on sent devant une grand-mère qui maîtrise le vaudou. Donc en fait, il y a toute cette mythologie-là qui gravite autour de ces personnages, qui sont depuis déjà pas mal de temps chasseurs de démons. Alors après, ils s'entendent pas. On est encore une fois sur une famille dysfonctionnelle. Il y a un tonton que plus personne ne peut blairer. Il y a une vieille qu'on est censé écouter. Il y a la jeune... qui devrait, parce qu'on est quand même dans une société un peu machiste, un peu, j'ai plus le terme qui convient.
Patriarcale,
ouais. Merci Bertrand. Elle est destinée à faire des potions, théoriquement, à base de racines, pour combattre les monstres, enfin, en tout cas pour conjurer le mal qui a transformé les âmes haineuses en monstres. Mais elle, ce qu'elle veut aller, c'est mettre des tatanes, en fait. Donc du coup, elle est pas du tout à sa place. C'est une féministe avant l'heure, dans les années 20. Faut vraiment resituer ça dans son contexte. Il y a le cousin un peu neuneux, en fait, qui est en train d'apprendre, tout doucement.
Le cousin stagiaire.
Ouais, un peu dans cet esprit-là, un peu comment se mettre sur la tronche. Il y a une espèce de grand balèze en surpoids, avec une beubare monstrueuse, qui est calme en toutes circonstances et qui a un langage très châtié. Je trouve que ça marche super bien. Je serais pas étonné de le voir un jour en série sur Netflix ou autre, parce qu'on a vu des trucs de cet acabit-là, en fait, un peu pop, un peu pulp aussi. Voilà, qui pourrait très bien passer à l'écran, quoi.
Et les monstres, ils sont...
Les monstres, ils sont tout ce qu'il y a de plus classique, en fait. Ils sont assez rigolos. Il y a toute une faune de monstres qui sont... Voilà, ça passe... on est sur des choses assez... on n'est pas dans une fantasmagorie complètement indécente. Il y a des références, en fait, à Ray Harryhausen, en l'occurrence. À un moment donné, il y a un cyclope, tout simplement. Voilà, donc on est vraiment dans cette espèce de...
On est sur du monstre classique.
On est sur des monstres classiques, ouais, on est sur du démon, on est sur du diablotin, on est sur des mecs à cornes, des gros balèzes avec des dents acérées, des grandes oreilles et puis des yeux rouges. Donc, mais en même temps, il y en a quand même pas mal. Ça bastonne relativement vite, c'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On est happé par l'histoire. Moi, c'est ce qui m'a plu aussi, c'est que... là, voilà, de par le nombre de bouquins que je lis... Si au bout de la 15e page, j'ai pas vraiment envie d'aller à la suite. Et là, en l'occurrence, c'est un peu pour moi la marque des récits réussis, c'est que tu rentres d'emblée dans le vif du sujet. Ouais, à la fin, il y a une petite série de fanarts. Alors après, c'est un truc qui est assez commun maintenant chez les Américains. Ils adorent faire ça. Puis nous, on repompe joyeusement ce système-là, le système des fanarts. Mais voilà, il y a des gens qui rendent hommage, il y a des parodies d'Akira qui sont revues. Enfin voilà, il y a plein de choses. C'est vraiment une série en devenir qui a bien bien marché aux États-Unis de par les SNR Awards, qui arrive chez nous. Alors qui arrive chez nous, c'est étonnant. Moi, j'aurais vu ça chez Urban, parce qu'en général, ils flairent plutôt bien les séries comme ça. Et là, c'est iComics qui est tombé dessus. Je pense que c'est une bonne opération de leur part d'avoir ça dans leur catalogue. C'est une chouette surprise. Graphiquement parlant, ça fait penser un peu à du. Il me revient pas en fait au moment où je le. C'est terrible, celui qui dessine Punk Rock Jesus, c'est. S'il te plaît, Bertrand, oui. Là, je vais avoir besoin de toi absolument. Sean Murphy, voilà, Sean Murphy, yes. En fait. On n'est pas sur du Sean Murphy, hein, évidemment, mais on est dans un dessin comme ça qui fait très années 80, qui a ces influences-là. Alors peut-être qu'il est influencé par le travail de Sean Murphy. Et sur une mise en couleur qui est très pop, très très punchy, très il y a des passages qui sont vraiment
pas mal de teintes orangées
avec des choix couleurs, ouais, des teintes orangées. Bah après, ça rappelle vraiment ça, c'est pour le côté Harlem des années 20,
côté blaxploitation,
un petit peu dans cet esprit là et puis je te dis, ça cartonne. On finit sur un cliffhanger qui est pas du tout déplaisant. Il y a de la magie en plus du reste. Il y a à un moment donné un espèce de portail. Alors comme il disait à un moment donné, c'est que ça dénonce aussi toute cette ségrégation qu'il pouvait y avoir dans les années 20, parce que le Harlem des années 20, forcément, c'est pas forcément celui d'aujourd'hui.
Ouais.
Il y a même le Ku Klux Klan avec un type qui est prêt à être pendu ou accroché sur une croix par des blancs un peu belliqueux et un peu haineux. Voilà, tout ça mélangé fait une bien belle série reposante. Hein. On n'est pas sur un truc pour réfléchir. On est sur quelque chose. Ouais, il y a Mike Mignola aussi qui a fait un petit fan art. Donc ça, pour moi, c'est un petit gage de qualité. Ouais, ouais. Même si maintenant il fait plus que ça, hein, concrètement, c'est quand même plutôt plaisant et il s'empare de la chose de bien belle manière. Il peut y avoir pléthore de spin-offs qui peuvent venir sur cette série. C'est chouette. Moi, j'étais happé par la couverture. Comme quoi, une couverture, ça marche bien. Quand c'est bien foutu, franchement, on s'intéresse au bouquin. Et à l'intérieur, j'ai pas été déçu. Voilà. Ça parlera pas forcément à tous les publics, mais les gens qui sont amateurs de pulp, qui sont amateurs de choses type Umbrella Academy, qui sont amateurs de The Goon, effectivement, Hellboy ou autre. Là, on est sur un Hellboy un peu sous acide, mais malgré tout, voilà, on sera pas dépaysé du tout. Et bah, c'est très chouette. C'est très chouette. Et je crois que c'est fait par une communauté. Dans une communauté, c'est un peu moche comme mot, mais des auteurs afro-américains. Donc peut-être qu'en fait,
l'influence est là.
L'influence, okay. Ouais, voilà.
Tu parlais tout à l'heure de.
C'est bien le cas.
Comment ?
C'est bien le cas.
Ouais, c'est bien le cas. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure de possibilités de spin-off et compagnie, mais la série en elle-même, actuellement, elle est rendue à combien de.
Aux États-Unis, j'ai pas du tout d'idée à combien c'est rendu. Chez nous, ça arrive tout juste. J'aurais tendance à penser qu'elle va s'installer, parce qu'avec un SNR, tu peux emmener le truc loin, sauf s'il y a une volonté de la part des auteurs de pas aller plus loin. Maintenant, c'est une série qui peut se développer sur le long cours. Hein. Franchement, c'est. Moi, ça m'a autant joué qu'un. Black Hammer ces derniers temps là, que j'avais trouvé absolument génial et que je dévore chaque tome à sa sortie. Là pour le coup, voilà, faut attendre la suite, faut espérer que ça s'essouffle pas. Ça m'a rappelé des petites choses assez plaisantes comme Black Science, que peut-être certains connaissent. Black Science, qui est une très très bonne série aussi, qui s'étale un peu à mon sens. Voilà, les derniers tomes sont un peu moins intéressants. Voilà, on est dans ce champ lexical là de séries.
Ok. Tu redonnes les références, s'il te plaît, Tony ?
Eh bien, écoute, c'est Bitterroot par Walker, Brown, Green et Renzi chez iComics. C'est le premier tome qui est sorti il y a quoi ? Il y a à peu près 15 jours, à tout casser ?
Ouais, voilà. Ça doit être ça.
Pour la modique somme de 17,90€, il y a quand même de la page à lire.
Ok, parfait. Bon, alors, je ne vais pas rester sur le même sujet tout à fait. Moi, je voulais parler de Lulu et Nelson, d'Aurélie Ray, de Aumont et Girard. J'écorche les prénoms, je vais vous les retrouver tout de suite. Qui parle aussi un petit peu de tolérance envers les personnes de couleur.
C'est bien ça. Il en faut plus des bouquins comme ça.
Ouais. Alors tu l'as lu celui-ci ou pas ?
Non, j'ai pas lu. On en a parlé avec Olivier Suppy au téléphone parce que je suis passé complètement à côté. Je sais pas comment je me suis démerdé parce que c'est juste magnifique. Puis Aurélie Néret, son dessin, il est superbe. Et voilà, il m'a parlé de Lion Blanc. Donc là, je vois enfin la couverture à laquelle il faisait référence. Ça fait penser au Roi Léo en fait. C'est bizarre.
Beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de références en fait. Donc C'est vendu, alors c'est, moi c'est mon petit reproche, c'est vendu par l'auteur des Carnets de Cerises. Il n'y avait pas forcément besoin de mettre ça, puisque le talent d'Aurélie parle d'elle-même. Pour ceux qui ne connaissent pas,
pour des bouquins.
Bah oui, mais tout comme mettre, il y a eu un Eisner Award dessus. Hein,
bah c'est... oui. Voilà, c'est un sticker. Ça peut sembler.
C'est un sticker.
Parce que le Eisner Award, il est dans la couverture. C'est foutu pour l'enlever. Faut gratter.
Le talent d'Aurélie Nérès est d'arriver à donner vie à des personnages qui sont tous plus marquants les uns que les autres, qui sont extrêmement vivants. Et là, on suit l'histoire d'une petite fille en fait qui vit dans un cirque, dont les parents sont dresseurs en fait de lions. Et qui, un soir, en fait, vont, lors d'une représentation, subir un drame, puisque la maman, en fait, de la petite fille, qu'on va nommer Lulu, va se faire dévorer par un des lions.
Oh, waouh!
Et ouais, c'est plutôt.
C'est pas jeunesse, du coup, non? Si, quand
même. Si, pourtant, c'est jeunesse. Alors, tout se passe hors caméra.
Ah, hein, sinon. Dans Bambi, la mère de Bambi meurt dès le début.
Ouais.
Non, mais il faut les références, ça peut être cruel, c'est comme ça.
On parle de Quasimodo?
Non, mais c'est bon, exemple. Stop. Et du coup, cette jeune fille, en fait, Lulu, va, contre l'avis de son père, suite à d'autres péripéties que je vous laisserai découvrir, en fait, se mettre dans l'idée d'aller chercher des lions pour pouvoir les dresser là où ils vivent, en fait, c'est-à-dire en Afrique. Donc elle va prendre un petit bateau avec... en ayant louvoyé un petit peu, et va se retrouver avec un jeune garçon qui s'appelle Nelson, qui lui est noir et qui vit de plein fouet en fait la ségrégation qu'on peut trouver en Afrique du Sud à cette période-là. Et c'est un petit peu dur, c'est un petit peu raide, mais c'est pas fait de manière méchante, c'est pas fait de manière violente. Mmh. Les enfants peuvent facilement comprendre et poser des questions. Pourquoi ce petit garçon, pourquoi les gens, quand Lulu elle sort du bateau, pourquoi il y a des gens qui sont en train de manifester et qui se font taper dessus par des policiers. Et du coup, c'est...
on est en France, finalement. Ni plus ni moins.
On n'a pas le droit de faire de politique.
Pardon, excusez-moi. Non, mais j'ai pas fait de politique.
Mais
pas juste d'Angoulême. Comparaison. Non, pas Angoulême, ça s'est pas passé là-bas.
Non, mais c'est vraiment hyper intéressant. Ça peut permettre aux enfants en fait de poser des questions, que ce soit sur les animaux, que ce soit sur l'apartheid, sur plein de choses. Et du coup, c'est vraiment sympa. Le dessin, on le disait tout à l'heure, je le redis, hein, le dessin d'Aurélie est vraiment sublime, avec des couleurs qui sont très harmonieuses. Il y a un côté extrêmement doux et rond. On retrouve un petit peu le côté carnet de cerises, avec des passages de texte façon manuscrit, qui sont les émotions et les ressentis, on va dire, des personnages. Après, toute l'histoire commence par un flashback suite à une lettre qu'une petite fille reçoit, une lettre qui lui est écrite par la Lulu du titre, et qui va lui raconter son enfance. Donc il y a plein de rapprochements. Ceux qui ont aimé les carnets de cerises ne peuvent qu'aimer en fait Lulu Nelson. Ceux qui ne connaissent pas les carnets de cerises, je pense qu'ils s'empresseront d'aller le lire après avoir lu Lulu et Nelson. C'est pas évident à dire ça. C'est un tome 1, je sais pas sur combien de tomes ça va être réparti. C'est très très beau, hein. C'est dans la collection Métamorphose de chez des éditions Solar.
Ouais, comme d'hab, en fait, une maquette géniale.
La maquette est top et ça fonctionne vraiment très très bien. Je redonne les différentes références. Donc c'est Lulu et Nelson, c'est Doreline Néré, c'est de, j'ai perdu les noms des gens, de Monsieur Girard et Monsieur Aumont. C'est dans la collection Métamorphose aux éditions Soleil, et c'est vraiment 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 très très bien. Et puis un petit cadre derrière qui est la maquette, voilà, elle est top. On n'a rien à redire là-dessus. Et puis ouais, moi j'ai rien à redire de négatif non plus sur l'album.
C'est la marque de fabrique des éditions, enfin de la collection Métamorphose. That's all, folks.
19h58, c'est l'heure pour nous de nous quitter. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous, que vous avez déjà programmé votre agenda pour revenir la semaine prochaine à 19h. On vous parlera de nouveau de comics, de manga, de franco-belge sur le 101.5 de Radio G. Dans cette case de Seb, je serai sans doute avec mes camarades si je ne suis pas tombé mort de maladie d'ici là. Restez par contre, ne quittez pas, vous allez pouvoir vous remplir après avoir vu de belles images par truchement des ondes radiophoniques. Remplissez-vous les oreilles de bons sons. C'est ça part en live dans quelques instants. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À ciao, bonsoir.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Trop vite! Tu n'es pas chez toi ici!
Justement! Les touristes d'abord!
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Radio G 101.5 FM.